Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien en ce 16 août. Et comme toujours, vous le savez, vous êtes les bienvenus à la Daily Audio Bible. Je m'appelle Hervé, et croyez-moi, ça me fait vraiment plaisir d'être là pour écouter la Bible. Et vous savez pourquoi ? Eh bien tout simplement, parce que nous pouvons le faire tous ensemble. Nous avons quelques jours de plus à consacrer au livre de Néhémie, avant que nous puissions passer à l'histoire dramatique qui suit, à savoir celle d'Esther. Et ce que j'attends avec impatience, parce que j'aime beaucoup cette histoire. Mais nous sommes encore dans Néhémie, et c'est Sabelle, notre lectrice, qui va continuer aujourd'hui dans ce livre passionnant. Donc je lui laisse la parole, et je vous dis à tout à l'heure.
Néhémie 11 à Néhémie 12, verset 26. Les chefs du peuple s'installèrent à Jérusalem. Dans le reste de la population, on désigna par le sort un citoyen sur 10 pour qu'il aille habiter Jérusalem, la ville sainte, tandis que les 9 autres pouvaient demeurer dans les diverses localités du pays. On fut particulièrement reconnaissant envers ceux qui s'offrirent spontanément pour aller habiter Jérusalem. Les chefs de la province habitèrent Jérusalem, alors que les autres Israélites, prêtres, lévites, employés subalternes du temple et descendants des serviteurs de Salomon, demeuraient dans leurs localités respectives, chacun dans sa propriété. Toutefois, un certain nombre de gens de Juda et de Benjamin s'installèrent à Jérusalem. Parmi les gens de Juda, il y avait Ataïa du clan de Pérès, descendant de Malaléel, par Shephatia, Amaria, Zacharie et Ouzia, ainsi que Maséa, descendant de Chiloni par Zacharie, Yoyarib, Adaya, Azaya, Kolosé et Baruch. Au total, on comptait parmi les habitants de Jérusalem 468 hommes de valeur du clan de Pérès. Parmi les gens de Benjamin, il y avait Salou, descendant de Yeshaya, par Itiel, Maaseya, Kolaya, Pedaya, Yoed et Meshulan, ainsi que Gabaï et Salaï. Au total, 928 benjaménistes. Joël, fils de Zikri, était le responsable de ce groupe, et Yehuda, fils de Yasenoua, était l'adjoint du chef de la ville. Parmi les prêtres, il y avait Yedaya, fils de Yoharib, Yakin, Seraya, descendant du grand prêtre, Aïtoub, par Merayot, Sadok, Meshulam et Hilkia, ainsi que 822 membres de leur clan, chargés des travaux dans le temple de Dieu. Adaya, descendant de Malkia par Peshur, Zacharie, Amsi, Pelalia et Yoram, avec 242 chefs de famille, membres de son clan. Amashézaï, descendant d'Imer, par Meshil Lémoth, Azaï et Azarel, avec 128 soldats valeureux, membres de son clan. Le responsable de ce groupe était Zabdiel, fils de Hagé d'Olim. Parmi les Lévites, il y avait Shemaïa, descendant de Bouni, par Hachabia, Azrikam et Hachoub, ainsi que les chefs lévitiques de Shabbetai et Yozabad, chargés des travaux extérieurs du temple de Dieu. Matania, descendant d'Asaf, par Zabdi, et Mika, chargé d'entonner les chants de louange à l'heure de la prière. Bakoua, un des frères de Matania, chargé de le seconder. Abda, descendant de Yidoutoun, par Galal et Shamoua. Au total, on comptait 284 lévites dans la ville sainte. Il y avait au portier Akoub et Talmon, chargés avec les hommes de leur clan de la surveillance des portes. Au total, 172 personnes. Les autres Israélites, y compris les prêtres et les lévites, résidaient dans les autres localités de Juda, chacun dans sa propriété. Les employés subalternes du temple résidaient dans le quartier de Jérusalem, appelé l'Ophel. Ils étaient placés sous l'autorité de Sia et Guichépa. Les responsables des lévites de Jérusalem étaient Uzi, descendant de Mika par Atania, Hachabia et Bani. Il était membre du clan d'Asaf, le clan responsable des activités musicales dans le temple de Dieu. Les musiciens étaient soumis à un règlement royal et à des dispositions fixant leurs tâches quotidiennes. Pétaïa, fils de Meshézabel, du clan de Zéra, fils de Juda, représentait le peuple d'Israël à la cour royale de Perse. Certaines familles de la tribu de Juda habitaient les localités disséminées dans la campagne. Kiryat Arba et les villages voisins, Dibon et les villages voisins, Yakabseel et les localités voisines, Yeshua, Molada, Beth Pellet, Assar Shual, Bercheba et les villages voisins, Ziklag, Mekona et les villages voisins, Enrimon, Sora, Yarmouth, Zanoa, Adullam et les localités voisines, Lachish et les environs, Azekai et les villages voisins. Ils se trouvaient donc installés entre Beersheba au sud et la vallée de Hinnom au nord. Les familles de la tribu de Benjamin habitaient Geba, Mikmas, Aya, Bethel et les villages voisins, Anatot, Nob, Anania, Assor, Rama, Gitaïm, Hadid, Seboïm, Nebalat, Lod, Ono et la vallée des artisans. Certains groupes de Lévites émigrèrent de Juda en Benjamin. Voici la liste des prêtres et des Lévites qui revinrent d'exil avec Zorobabel, fils de Shealtiel, et avec Yeshua. C'était Seraïa, Irmeia, Ezra, Amaria, Malouk, Hatouche, Shekania, Réoum, Meremoth, Ida, Genitoï, Abia, Miyama, Maadia, Bilga, Shemaya, Yoharib, Yedaya, Salou, Amok, Ilkia et Yedaya. À l'époque de Yeshua, tous ceux-ci étaient des chefs de famille sacerdotales et lévitiques. Parmi les Lévites, il y avait Yeshua, Binoui, Kadmiel, Sherebia, Yehudia et Matania. Matania et les hommes de sa famille entonnaient les chants de louange auxquels répondaient les Lévites Bakouya et Umni, placés en face d'eux pour le service. Yeshua fut le père de Joachim, Joachim celui d'Eliashib, Eliashib de Yoada, Yoada de Jonathan et Jonathan de Yadoua. À l'époque où Joachim était grand prêtre, les chefs de famille sacerdotales étaient Meraïa pour la famille de Seraïa, Hanania pour celle d'Irmeia, Meshulam pour celle d'Ezra, Yohanan pour celle d'Amaria, Jonathan pour celle de Melukou, Joseph pour celle de Shebania, Adna pour celle de Yarim, Helkai pour celle de Merayot, Zacharie pour celle d'Ido, Meshulam pour celle de Guinéton, Zikri pour celle d'Abia, pour celle de Mini-Amin, Piltai pour celle de Moadia, Shamua pour celle de Bilga, Jonathan pour celle de Shemaya, Matenai pour celle de Yoharib, Uzi pour celle de Yedaya, Kalai pour celle de Salai, Eber pour celle d'Amok, Hashabia pour celle de Ilkia et Netanéel pour celle de Yedaya. À l'époque où Eliashib, puis Yodaya, Yohanan et enfin Yedoua étaient grands prêtres, on inscrivit dans des registres les noms des Lévites qui étaient chefs de famille. On procéda de même pour les prêtres jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Les noms des chefs des familles lévitiques figuraient aussi dans le livre relatant les événements importants, mais cela seulement jusqu'à l'époque de Yohanan, petit-fils d'Eliashib. Les chefs lévitiques, Hashabia, Sherebia et Yushua, fils de Kadmiel, se tenaient en face des autres Lévites pour acclamer et louer Dieu lorsque c'était leur tour de service. Ils se conformaient ainsi aux instructions de David, l'homme de Dieu. Les portiers Metanaïa, Bakoubia, Obadia, Meshulam, Talmon et Akoub avaient pour tâche de surveiller les entrepôts situés près des portes du temple. Ils accomplissaient leur service à l'époque de Joachim, fils de Yeshua et petit-fils de Yosadak, et à l'époque de Néhémie le gouverneur et d'Esdras, le prêtre spécialiste de la loi. À 1 Corinthiens 10, versets 14 à 33. C'est pourquoi, mes chers amis, gardez-vous du culte des idoles. Je vous parle comme à des personnes raisonnables. Jugez vous-même de ce que je dis. Pensez à la coupe de la Seine pour laquelle nous remercions Dieu. Lorsque nous en buvons, ne nous met-elle pas en communion avec le sang du Christ? Et le pain que nous rompons, lorsque nous en mangeons, ne nous met-il pas en communion avec le corps du Christ? Il y a un seul pain. Aussi, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps, car nous avons tous part au même pain. Voyez le peuple d'Israël. Ceux qui mangent les victimes sacrifiées sont en communion avec Dieu, auquel l'autel est consacré. Est-ce que je veux dire par là qu'une idole ou que de la viande qui lui est offerte en sacrifice a une valeur quelconque? Non. Mais j'affirme que ce que les païens sacrifient est offert aux démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Vous ne pouvez pas boire à la fois à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas manger à la fois à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien, voulons-nous susciter la jalousie du Seigneur? Pensez-vous que nous soyons plus forts que lui? Tout est permis, dites-vous. Oui, cependant, tout n'est pas bon. Tout est permis, cependant, tout n'est pas utile pour la communauté. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui des autres. Vous êtes libre de manger tout ce qui se vend au marché de la viande, sans avoir à poser de questions, par motif de conscience, car comme il est écrit, c'est au Seigneur qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient. Si un non-croyant vous invite à un repas et que vous acceptiez d'y aller, mangez tout ce qu'on vous servira, sans poser de questions par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « cette viande provient d'un sacrifice offert aux idoles », alors n'en mangez pas, à cause de celui qui a fait cette remarque et par motif de conscience. Je parle ici, non pas de votre conscience, mais de celle de l'autre. Mais pourquoi, demandera-t-on, ma liberté devrait-elle être limitée par la conscience de quelqu'un d'autre? Si je remercie Dieu pour ce que je mange, pourquoi me critiquerait-on au sujet de cette nourriture pour laquelle j'ai dit merci? Ainsi, que vous mangiez, que vous buviez ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Vivez de façon à ne scandaliser ni les juifs, ni le non-juif, ni l'église de Dieu. Comportez-vous comme moi. Je m'efforce de plaire à tous en toutes choses. Je ne cherche pas mon propre bien, mais le bien d'une multitude de gens, afin qu'ils soient sauvés. Psaume 34, versets 12 à 23. Venez, mes enfants, écoutez-moi. Je veux vous apprendre à honorer le Seigneur. Si quelqu'un aime la vie et s'il désire vivre heureux, il doit se garder de médire, se garder de mentir, s'écarter du mal, pratiquer le bien et rechercher la paix avec persévérance. Le Seigneur garde les yeux sur les fidèles, prêts à entendre leur appel. Le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal, afin d'éliminer leur nom du pays. Dès que les fidèles appellent au secours, le Seigneur entend et les délivre de toutes leurs angoisses. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le fidèle endure de nombreux maux, mais le Seigneur le délivre de tous. Il veille sur tous les membres de son corps pour qu'on ne lui en brise aucun os. Le méchant mourra de sa méchanceté, et ceux qui en veulent aux fidèles devront en subir la peine. Le Seigneur sauve la vie de ses serviteurs. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui ont recours à lui. Proverbe 21, verset 14 à verset 16. Pour calmer la colère ou même la violente fureur de quelqu'un, rien de tel qu'un cadeau discret, qu'un présent offert sous le manteau. L'application du droit fait la joie de l'homme honnête et frappe d'épouvante le malfaiteur. Un homme qui abandonne tout bon sens ira bientôt tenir compagnie à ceux qui ne sont plus.
Et merci Sabelle, merci beaucoup pour ta lecture. Et dans la lecture du Nouveau Testament, aujourd'hui, Paul rappelle aux Corinthiens qu'en partageant la même mise de pain pendant la scène du Seigneur, ils ont été unifiés en un seul corps dans l'Église. Il leur a enseigné que si, au nom du Christ, ils étaient libres de faire beaucoup de choses, tout n'était pas forcément constructif pour les autres membres du corps. Relisez 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Et dans la vie, notre liberté personnelle et nos désirs ne sont pas les seuls à être considérés. Nous devons aussi chercher le bien des autres. Et là, c'est le verset 24 qui nous le dit. Alors, comme un seul corps, Paul a souligné l'importance de prendre en compte le bien-être des autres membres du corps de l'Église. C'est seulement grâce à cette prise de conscience que nous pouvons rester unis comme un seul corps en bonne santé. Merci de nous écouter encore une fois et je vous dis à demain pour la suite de notre podcast.